sur Radio Campus Tours, vous écoutez La Méridienne. Bienvenue si vous nous rejoignez. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir deux ERS, étudiantes les santé. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Bonjour.
Alors peut-être voulez-vous rappeler à nos auditeurs qui vous êtes.
Alors bonjour, moi c'est Maëlle, donc je suis étudiante relais santé. J'ai 20 ans et j'étudie la musicologie, je suis en dernière année.
Alors moi c'est Maëna, je suis aussi étudiante relais santé et je suis en L2 de psychologie et j'ai 19 ans.
Alors nous aurons le plaisir de retrouver les ERS une fois par mois, voilà, vous viendrez régulièrement dans la Méridienne. Et aujourd'hui la thématique que vous avez choisie c'est addiction et prévention des prises de risque lors des soirées festives. Alors on vous écoute.
Alors tout d'abord on peut peut-être commencer par dire ce que c'est qu'un étudiant relais santé. Donc nous on est des étudiants qui sont recrutés par l'université. Donc on est salarié de l'université et on travaille pour le service de santé universitaire qui est un service qui propose, comme son nom l'indique, différentes choses de santé, des infirmiers, des médecins, des psychologues qui sont présents au sein de ce service. Donc notre rôle aux étudiants relais santé, il consiste à faire plusieurs choses. Premièrement, on intervient pendant des soirées ou pendant des événements, par exemple pendant des actions de prévention, de dépistage, pendant des soirées à thème. Mais aussi, on va participer vraiment activement à la construction, à la préparation et à la mise en place des différentes actions. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on ne soit pas juste des personnes qui vont intervenir pendant les soirées, mais qu'on réfléchisse aussi en amont à comment on veut préparer les choses, qu'est-ce qu'on va mettre en place et comment on va le faire.
Donc du coup, au sein du SSU, à Tours, on est 15 ERS répartis sur 3 pôles. Donc il y a le groupe bien-être, le groupe vie sexuelle et affective et le groupe dont on fait partie qui s'appelle addiction et prise de risque lors de soirées festives. Et il y a aussi un pôle à Blois où ils sont deux ERS et qui traitent de ces trois thématiques. Donc là, comme vous l'avez dit, on va aborder la thématique des soirées festives. Et le mois prochain, ce sera sur le mois sans tabac au mois de novembre.
Donc on va commencer avec notre premier thème, donc les soirées festives. Donc on va partir dans l'idée du déroulement, de comment ça se passe quand une association elle a envie de faire une soirée. Donc si une association étudiante, peu importe laquelle, prépare une soirée, et peu importe surtout la nature de la soirée, elle doit, dans un premier temps, envoyer un mail au service de santé universitaire et surtout au bureau de vie étudiante en demandant une rencontre, un entretien avec le service de santé universitaire.
Donc bah, idéalement, c'est quand même bien de fixer cette rencontre entre un mois et deux semaines à l'avance, donc avant l'événement, ou même plutôt si l'association elle veut vraiment réfléchir à son projet avec le SSU. Mais en moyenne, c'est entre un mois et deux semaines avant l'événement pour que s'il y ait des choses à modifier, ce soit pas trop tard pour les délais, notamment pour tout ce qui est licence. La licence 3, par exemple, d'alcool, elle doit être demandée deux semaines avant.
Donc ce sont des rencontres qui peuvent se faire au service de santé universitaire ou alors, nous, on peut s'adapter aussi, on peut rencontrer directement sur les sites d'associations, dans des IUT, les facs, là où vous êtes.
Donc la rencontre, en fait, ça c'est sous forme d'un entretien. Donc c'est entre pairs, c'est-à-dire qu'il y a deux ERS, donc deux étudiants relais santé du groupe Addiction et les deux ou trois membres du bureau de l'association étudiante. Donc on n'est pas du tout là pour juger, contrôler ou imposer, mais vraiment pour accompagner au mieux les associations dans la préparation des soirées. Donc l'entretien, il se déroule donc sous la forme d'une série de questions qui nous permet de comprendre et de discuter déjà de la nature de la soirée, de l'organisation générale, donc les autorisations qui ont été demandées ou à demander en tout cas, le nombre de personnes présentes, le nombre d'organisateurs, et aussi ce qui est très important, le nombre de personnes qui ont le PSC1. Ensuite, on pose évidemment des questions. Question sur la gestion d'alcool.
Alors pardon, est-ce qu'on peut juste rappeler ce qu'est le PSC1?
Alors le PSC1, c'est le diplôme des premiers secours. Donc d'ailleurs, les membres d'associations peuvent demander à se faire former au SSU, au PSC1, si jamais il n'y en a par exemple aucun dans le bureau qui a le PSC1. Et des fois, ça peut être vraiment... ça peut pas sauver des vies, mais en tout cas améliorer des situations un peu tendues. Donc après, évidemment, on pose des questions sur la gestion de l'alcool, si vous avez prévu un système de tickets, ce qui est souvent utilisé, quel type d'alcool seront sur place, etc. Et puis aussi, l'organisation des déplacements pour éviter les cas d'ébriété au volant, donc s'il y avait des navettes prévues ou des choses comme ça. Et évidemment, la sécurité aussi mise en place pour limiter les risques du lieu de la soirée. Typiquement, s'il y a un lac, c'est bien de baliser pour éviter qu'il y ait des problèmes de noyade.
Donc on sait, nous, que c'est assez difficile pour les étudiants de préparer une soirée, parce qu'il faut prendre en considération vraiment plein de facteurs. Donc comme on disait plus tôt, la sécurité, la prévention, la gestion de l'alcool, les trajets aller-retour. Donc on va vraiment utiliser l'entretien avec les étudiants comme un temps d'échange. Ça nous permet de faire un point avec les associations. Et le but, c'est vraiment de les aider à tout mettre en place correctement et de manière efficace. Donc les entretiens, ça nous permet d'aider, mais aussi de suggérer aux associations, par exemple, des dispositifs qu'on peut mettre en place facilement pendant des soirées, comme le quart d'heure water, un marquage au sol pour prévenir les risques sonores ou d'autres dispositifs de sécurité. Donc on est vraiment intéressé par vos idées en termes de sécurité et nous, on peut vous en apporter d'autres si vous en avez besoin.
Est-ce que vous voulez juste expliquer ce que c'est le quart d'heure water et le marquage au sol qu'est-ce qu'il montre en fait, qu'est-ce qu'il indique?
Alors le marquage au sol, c'est un marquage qui permet d'indiquer les risques qu'on prend, les niveaux de décibels qu'on se trouve par rapport à l'arrivée de la musique, pour voir un petit peu dans une soirée, si on s'avance sans bouchon, qu'est-ce qu'on risque au niveau de nos oreilles en regardant le marquage au sol. C'est vraiment de la prévention de la surdité, parce que des fois quand on est étudiant, on se rend pas compte, on a tendance à aller coller aux enceintes avec notre verre et à pas se rendre compte de l'impact que ça a forcément sur nos oreilles. Et le quart d'heure water, c'est des dispositifs, c'est un quart d'heure, comme son nom l'indique, avec de l'eau. C'est des dispositifs pour limiter la consommation d'alcool et se dire, bon bah là je prends un temps, un quart d'heure, je bois que de l'eau et après je recommence ma consommation.
Et en fait, c'est que les bars de la soirée servent que de l'eau pendant un quart d'heure. Donc ça impose aux gens de boire de l'eau.
Mais ça marche ou alors les gens se disent, c'est pas grave, j'attends un quart d'heure?
Et ça fonctionne en fait. C'est pas une de nos idées, le quart d'heure water. C'est une association qui a mis ça en place. Et en fait, c'est pas forcément toutes les heures. Et au début, ils avaient fait ça une première fois toutes les 2 heures. Et maintenant, ils essaient de le faire une fois par heure. Et puis en fait, les étudiants, ils sont assez OK pour prendre de l'eau pendant un quart d'heure. Même ça évite aussi les risques liés à la déshydratation en général.
Mais d'ailleurs, c'est parce qu'il me semble que l'alcool, ça déshydrate aussi. Alors en fait, c'est un bon plan de boire de l'eau.
Et même pour le lendemain, en fait, même pour eux, c'est aussi un bon plan de boire de l'eau régulièrement.
Et ça, tout ça, c'est des choses évidemment que vous expliquez aux étudiants. Et alors, qu'est-ce que vous pourriez dire à une association qui viendrait vers vous en disant, nous, notre envie, c'est de faire un open bar?
Déjà que c'est une pratique interdite. Donc, qu'ils risquent d'avoir potentiellement des problèmes après la soirée si on apprend qu'il y a eu un open bar, parce que c'est interdit par la loi. Et que forcément, en tant qu'association, quand ils organisent des soirées, ils les organisent dans le but de divertir, de faire connaître leur association, de créer du lien. Et que l'alcool, on est d'accord que c'est sympa en soirée, surtout pour des étudiants, mais que c'est pas forcément quelque chose qui va créer du lien, mais qui va plus, si on est dans une surconsommation, amener des problèmes plutôt qu'aller vers l'objectif voulu de l'association, à savoir passer une soirée assez sympa. Donc si au lieu d'une soirée où tout le monde se retrouve, danse, il y a des activités de prévues, de la prévention, on se retrouve sur une soirée avec surconsommation, la moitié des étudiants qui ont trop bu, qui ont besoin de soins, voire quelques cas de coma éthylique, etc., tout de suite on part sur des soirées qui vont desservir l'association plus tard quand elles vont vouloir réorganiser une soirée parce qu'on aura cette idée en tête de leur organisation. Mais aussi, en tant que membre, ça ne va pas forcément créer une bonne ambiance au sein de la promotion qui veut créer la soirée, parce que ce sera une soirée qui peut potentiellement tourner, pas au cauchemar, mais tourner un petit peu mal, quoi.
Et puis légalement aussi, il y a quand même des contrôles assez régulièrement dans les soirées. Et notamment par la gendarmerie, parce que c'est mieux aussi de prévenir la gendarmerie quand ils font des soirées. Et lors de contrôle, une association, elle peut vraiment, même s'il n'y a eu pas de dégâts humains, entre guillemets, elle peut en payer le prix de ce genre de soirée.
Alors c'est un passage obligé de venir vers vous pour faire des soirées. Et qu'est-ce qui se passe si les ERS ne valident pas, entre guillemets, le projet de la soirée?
Bon, déjà, c'est vraiment pas souvent. Et puis, c'est pas vraiment une histoire de valider ou de pas valider, c'est plus, on leur dit en fait ce qu'ils risquent. clairement. Enfin, on va pas faire de la délation, on va pas dire cette association-là, elle a pas de licence 3 par exemple, et elle propose quand même de la bière. On va pas faire ça, mais c'est surtout que on leur explique vraiment l'importance des choses, l'importance de la prévention, et en retour, c'est s'il y a une enquête en fait, que ou s'il y a même un problème humain, que là ça va poser problème. Mais nous en tant que RS, on leur interdit pas de faire une soirée. Enfin, c'est très rare, ça nous est jamais arrivé encore.
Alors, pourvu que ça n'arrive pas, mais une question, si par exemple vous aviez prévenu une association des risques qu'ils peuvent courir sur justement une consommation excessive d'alcool et que malheureusement ils n'en ont pas tenu compte, qui est responsable en cas d'accident? Est-ce que vous êtes responsable ou pas?
Ça dépend. Alors ça, c'est des questions qu'on n'a pas forcément souvent, mais ça dépend. En fait, quand on est au cours de l'entretien, on remplit une fiche où on se met d'accord avec les associations sur ce qu'elles ont prévu. Donc c'est une fiche qui comprend tout ce que Maëlle a expliqué auparavant, la gestion de l'alcool, la sécurité, etc. Donc tout ça, c'est marqué, ce qu'elles ont prévu de faire, et les associations, elles signent cette fiche, et c'est une signature qui veut dire « nous, on s'engage à respecter ce qu'on a écrit dans la fiche ». Donc si c'est pas respecté, on se reporte à cette fiche, et on leur dit, par exemple, « vous nous aviez dit qu'à cette soirée, il n'y aurait pas d'alcool fort, pourtant vous avez consommé du punch, vous avez eu un problème avec un étudiant, et il y avait cet alcool fort en soirée », et ben ici, si sur la fiche, c'était pas écrit comme ça, c'est l'association qui va être responsable. Parce que nous, on n'a pas donné notre autorisation pour ce genre de choses. Donc à chaque fois, c'est un petit peu vraiment cette fiche qui fait le lien entre l'association et ce que nous, on a évoqué comme problème. Après, nous, on est vraiment là pour aider quand il y a un entretien. Si jamais on sait qu'il y a des choses que l'association est en train de nous dire, on se dit « non, c'est peut-être pas une bonne idée niveau sécurité ». On va pas tout de suite leur dire non, la soirée elle va pas se faire si vous nous proposez ça, pas du tout. On va réfléchir avec eux, peut-être que vous pourriez plutôt partir là-dessus. Enfin, l'objectif c'est quand même qu'elles aient des soirées agréables, sympas et qui se passent dans la sécurité, quoi. Mais s'il y a un problème, on se reporte à ce qu'on avait écrit.
Ouais, l'entretien c'est vraiment un moment d'échange et des fois ça dure 2-3 heures. Enfin, on prend vraiment le temps de comprendre l'organisation, de comprendre. Enfin, aussi avec leur public, en fait, parce que chaque asso connaît son public, connaît ses consommations, et sait ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. Par exemple, là, on a eu un exemple avec le quart d'heure batteur qui fonctionnait bien, mais peut-être que si on propose à une autre population, ça fonctionnerait pas, parce que c'est pas leur état d'esprit. Donc, il faut aussi s'adapter à ce que l'association a déjà fait aussi comme soirée. Si elle a déjà testé certaines de nos idées qui ne fonctionnent pas, et ben dans ce cas-là, on ne va pas lui imposer de continuer à faire ses idées si, avec son public, ça ne fonctionne pas.
Eh bien, je vous propose, mesdames, de faire une première pause musicale avant de continuer cette intervention. Et on va écouter Dorothy Ashby, grande harpiste jazz. Thank you. Dorothy Ashby dans la Méridienne. Vous êtes toujours sur Radio Campus Tour et nous poursuivons cette émission spéciale avec nos deux étudiantes Relais Santé. C'est à vous, mesdames.
Donc, on parlait de l'entretien avec les associations et c'est à ce moment-là qu'on aborde en fait les interventions des étudiants Relais Santé. Donc, on peut intervenir pour animer et renforcer la prévention de manière un peu plus pédagogique lors des soirées.
Donc toutes nos interventions, elles sont gratuites et elles vont durer 2 heures et elles se font à la demande des étudiants, mais généralement on intervient plus en début de soirée, histoire que la prévention qui soit faite soit efficace jusqu'à la fin de la soirée. Donc pendant cette soirée, on peut proposer plusieurs choses. On peut proposer par exemple des parcours. On a des lunettes qui vont simuler différents degrés d'ébriété. Donc on a des lunettes diurnes et nocturnes pour le jour et la nuit qui vont simuler 0,8 ou 1,5 grammes par litre d'alcool dans le sang. Ça va permettre une mise en situation directe de l'effet de l'alcool sur le corps et sur les risques encourus en cas de conduite alcoolisée. Donc ça nous permet vraiment de faire de la prévention avec les étudiants sur qu'est-ce qui se passe si dans 2 heures vous prenez la route et que vous avez trop bu. On a aussi des jeux interactifs sous forme de quiz qui sont assez sympas et qui vont venir tester les étudiants sur leurs connaissances à propos de l'alcool, de la drogue et qu'on fait généralement aussi en début de soirée.
Et donc du coup pour le parcours avec les lunettes, en fait souvent on leur demande de faire un slalom et des fois on propose de les filmer pour qu'ils se rendent compte de comment est-ce qu'ils parviennent ou pas à faire le slalom avec les lunettes. Et du coup, on a de la documentation aussi, parce que souvent, on a un stand. Donc, on a des réglettes qui permettent de voir à peu près notre niveau d'alcool, suivant notre poids et si on est à jeun ou pas, et aussi suivant qu'on soit une femme ou un homme. On a aussi des réglettes sur la drogue, donc qui permettent de voir, en fonction du produit, les effets recherchés, les risques ou non de dépendance, et les dangers qui sont liés à ces drogues-là, donc les effets secondaires. Et une fois de plus, le but, c'est vraiment pas de juger, mais de pouvoir s'informer, en fait, sur ce qu'on prend, ce que ça va nous provoquer, et ce que ça peut nous provoquer aussi en effet secondaire ou pendant la redescente. Et on a aussi là de la documentation sur une action assez récente des étudiants Relais Santé de l'année dernière sur le consentement. Donc voilà. Après, on a aussi un stand qui propose des cocktails sans alcool. Donc ça permet d'offrir aux étudiants des softs qui soient visuellement plus attractifs, quoi, qui limitent ou remplacent la consommation d'alcool. Donc on en a 10, donc sans alcool, et il y a des goûts très différents et des visuels assez sympas, on peut faire des glaçages, etc. Et donc en fait l'association, lors de l'entretien, si elle choisit d'avoir recours à ce stand, elle peut choisir 3 ou 4 cocktails qui ont souvent des matières premières qui sont communes avec les cocktails avec alcool, ça leur permet de minimiser un peu les dépenses. Et donc nous, après, on tient le bar sans s'occuper de la caisse pendant 2 heures pendant la soirée.
Est-ce qu'on peut avoir des exemples de ces fameux cocktails sans alcool ?
Et je sais qu'ils avaient proposé un Virgin Mojito, je crois, à un moment. Et ils ont beaucoup de choses à base d'orange, de limonade.
On a des cocktails arc-en-ciel aussi.
Oui, qu'on peut faire avec du coup plusieurs couleurs qui s'empilent.
Après, on propose toutes les recettes pendant les entretiens et c'est les étudiants qui choisissent. Mais généralement, ils sont assez sympas. Ça permet de remplacer un coca ou un jus d'orange qu'on prendrait à la place de l'alcool. Donc, toutes les interventions qu'on vient de décrire, elles sont cumulables. Elles peuvent être demandées et préparées lors de l'entretien. Et elles sont, encore une fois, gratuites. Il y a simplement le matériel, par exemple, pour le parcours, avec les lunettes, les plots qui peuvent être demandés, et les ingrédients pour les cocktails, la matière première, qui doivent être fournis par l'association. Donc, en tant que RS, nous, on intervient vraiment à la demande des associations. Et on intervient aussi selon leurs besoins. Si elles ont des idées, des projets, on est également là pour y réfléchir pendant les entretiens.
Par exemple, l'année dernière, on a eu une intervention en amont de la soirée, en fait. Avant la soirée, le BDE de Polytech nous avait demandé de faire une intervention au parc de la Gloriette pour présenter les risques liés à l'alcool du coup à ses adhérents. Et donc voilà, après on peut aussi répondre à une demande qui émane des associations directement et intervenir même en dehors des temps de soirée.
Donc on peut également fournir différents types de matériel. Là encore, si les associations elles ont besoin de matériel, ce sont des demandes qui se font uniquement en entretien. On a beaucoup d'associations qui nous demandent du matériel par message Facebook, etc., sans avoir passé d'entretien, mais on n'en fournit vraiment que pendant l'entretien pour réfléchir à ce qu'elles ont vraiment besoin en fonction de la nature de leur soirée. Donc on peut fournir des éthylotests, 0,2 pour les apprentis conducteurs et 0,5 pour les autres. C'est des éthylotests, on le rappelle souvent, qui sont à conserver dans des endroits qui sont secs, à l'abri de la lumière et à l'abri des variations thermiques pour pouvoir être efficaces. Parce que s'ils sont conservés dans des endroits trop humides ou avec trop de chaleur puis trop de froid, ça risque de faire défaut négatif ou défaut positif et de fausser les résultats. Donc si on fournit des éthylotests, il faut vraiment faire attention.
Par exemple, ceux qui sont dans les boîtes à gants des voitures, ils sont tous morts en fait, parce que c'est pas du tout des conditions qui permettent de les stocker et d'avoir des résultats pertinents.
Donc voilà, on a ces éthylotests, on a aussi des préservatifs internes ou externes, donc féminins ou masculins. On a des bouchons d'oreilles et on a de la documentation qu'on a décrite tout à l'heure sur la consentement, le drogue, l'alcool, la surdité. Et on a aussi cette année des éco-cups qui sont gratuites. Donc n'hésitez pas, si vous êtes étudiant, à nous demander les éco-cups pendant les entretiens parce qu'on ne les fait pas payer. Donc pour approfondir ces points aussi et aider les associations, le service de santé universitaire y met en place bientôt une journée de formation, le 18 octobre. C'est une journée qui est à destination des responsables d'associations, donc des présidents, des trésoriers, secrétaires ou référents prévention. Elle va avoir pour but de donner des outils clés pour que les soirées de ces étudiants elles soient correctement organisées sur le plan administratif, sécurité et prévention surtout.
Et donc pour s'inscrire à cette soirée, il y a une... Faut juste envoyer un mail à l'adresse ssu@unif-tour.fr. Et donc du coup, ils vont aussi distribuer des kits et une liste de contacts, notamment pour faire les demandes, par exemple, de licence d'alcool, etc., avec qui rentrer en contact pour faire les démarches administratives.
Et donc, pendant cette formation, on va expliquer tout ça, mais surtout, après tout ce qu'on vient de vous raconter, n'hésitez pas, en tant qu'association, si vous écoutez, à venir nous rencontrer, à venir échanger, à venir discuter avec nous sur Facebook, par téléphone, par mail ou en vrai, pour vos différents projets, pour vos soirées. Et il y aura toujours un étudiant ERS qui sera là pour vous recevoir et vous écouter.
Oui, puis on est implanté un peu partout du coup, parce qu'il y en a qui sont en philosophie au Tanner, il y a langue, il y a psycho, il y en a qui sont évidemment en médecine, musicologie aussi. Donc ça permet, une fois que vous aurez identifié nos têtes, aussi de venir directement voir avec nous, c'est toujours plus simple. Et donc le SSU aussi, là, il organise une soirée avec la commission bien-être, qui s'appelle la soirée bien-être, et elle se déroule ce soir au SUAPS à Grandmont. Et donc il y a un bar zen, il y a du shiatsu, il y a des mandalas, de la sophrologie, et vous pouvez aller vous inscrire aussi, soit en ligne, soit il y a des événements sur place. Donc n'hésitez pas, en tout cas c'est gratuit pour le personnel et les étudiants.
Eh bien merci mesdames pour toutes ces informations, mais alors par curiosité, pourquoi vous vous êtes retrouvées ERS? Comment on décide de devenir étudiant relais santé?
Moi en fait, donc je suis en musicologie et ça m'intéressait de voir un peu l'aspect santé, promotion de la santé, pour peut-être après s'orienter vers de la musicothérapie. Enfin, ça venait m'ouvrir sur d'autres domaines que je connaissais moins, tout en complétant le champ de mes études.
Moi, ça me permettait personnellement de m'impliquer un peu plus dans l'université, en allant vers un travail qui est complémentaire à ma formation. Parce qu'en psychologie, on aborde un peu tous ces aspects d'addiction, prévention, etc. Et ça me permettait d'aller plus loin et de voir concrètement ce qu'on pouvait faire en termes de prévention sur une année universitaire.
Et est-ce que c'est simple au début d'aller vers les étudiants, d'aller se présenter? Qu'est-ce qui était peut-être un peu moins évident quand vous avez commencé votre mission de RS?
Alors, ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est plutôt de préparer son discours vraiment pour faire passer un message de... On n'est pas du tout des étudiants contrôle, on n'est pas du tout des étudiants qui en savent plus que vous, mais plus on est vraiment entre pairs, on a les mêmes difficultés que vous. Mais c'est assez simple d'aller vers les étudiants parce que comme c'est la même population que nous, ils ont le même âge, etc. Les contacts se font assez facilement et les membres des associations en général, ils sont assez réceptifs et ça les aide qu'on vienne leur parler. Donc c'est plutôt agréable d'aller vers eux et pas forcément une fois qu'on l'a fait une fois... après, ça se fait naturellement, normalement.
Et puis aussi, y a aussi certains de nous qui sommes aussi dans les bureaux d'associations. Donc ça permet de montrer que nous aussi, on est confrontés à ces questions d'organisation de soirée et que, oui, on est tous dans la même situation et que l'idée, c'est juste de réduire les risques au maximum et de profiter.
Voilà, et bien merci. Merci encore à vous deux d'être venus dans cette émission.
Merci de nous recevoir.
Alors, on rappelle que, donc je me suis trompée tout à l'heure, hein, c'est le premier lundi du mois et pas le troisième, pardon. Alors, peut-être est-ce que vous voulez annoncer la thématique, la suivante? Est-ce que vous savez de quoi parleront vos camarades ERS?
En fait, ce sera sur le mois sans tabac, parce que tous les ans, le mois de novembre, il est dédié à l'arrêt du tabac pour ceux qui ont envie de se lancer dans ça. Donc en fait, ils vont présenter les actions qu'on va mener durant ce mois-là afin de soutenir les étudiants qui auraient décidé justement d'arrêter de fumer au mois de novembre. Donc voilà, c'est pour faire du soutien et de l'information.
Merci encore. Et est-ce que vous avez peut-être un événement ou quelque chose que vous avez envie de signaler, une lecture, un blog ou quelque chose que vous aimez bien, que vous avez envie de signaler à nos auditeurs?
On a la page Facebook des ERS qui regroupe un peu tous les événements qu'on fait. Et comme on disait, la soirée bien-être de ce soir qui est un événement important, surtout dans la période de rentrée, pour accueillir les premières années qui sont peut-être un peu perdues.
Voilà. Bon, eh bien merci, on le mettra en lien dans le podcast. Merci encore et on va faire une nouvelle pause musicale. Yes, no, maybe. No, can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Life is unfair, so I just stare. The stain on the wall where the TV been, but ever since we've moved in, it's been empty. Why I'm in this room, there is no point explaining. You're not the boss of me now, and you're not so big. You're not the boss of me now. I've made so far.
great on a curve, and you'll observe I'm right below the horizon. Yes, no.
Oui, bonjour, alors c'est la bibliothèque municipale de Tours sur Radio Campus Tours et moi mon truc c'est la BD, donc bah, tout à l'heure je vous parlerai de BD.
Aujourd'hui, sur Radio Campus Tours, on fait escale à la bibliothèque de Tours.
Excusez-moi, je dis que des bêtises. Les yeux de Mélissa que je dis que des bêtises.
Des BD, des mangas, en vois-tu, en voilà, à la bibliothèque municipale de Tours sur Radio Campus Tours.
.com. Je voudrais parler de Popeye. Alors, je ne sais pas s'il y a des lycéens aussi qui écoutent Radio Campus aujourd'hui.
Bien sûr.
Bonjour les lycéens.
Ils font même de la radio.
On vous conseille fortement la lecture du CID en 4e B. Donc, le CID 2. De qui déjà le CID ?
Corneille.
Voilà.
Bah justement, c'est le vieux souvenir qu'on a du prof de français qui veut nous faire absolument aimer le théâtre en 4e. Et... voilà, ça rappelle des souvenirs. En même temps, c'est très drôle. Il y a vraiment beaucoup d'humour. Les portraits sont vraiment attachants. Donc, on passe un bon moment.
Et comme j'ai dit à l'autrice, quand je l'ai rencontrée, ça m'a aidé à comprendre enfin le CID à mon âge. Je ne vous dirai pas mon âge d'ailleurs. Voilà, et peut-être donner envie de le lire un de ces jours. Pourquoi pas ? Mais c'est vrai que ce n'est pas évident de lire le CID sans doute en 4e. Et en plus, bon, c'est un petit peu des élèves qui sont un petit peu... chahuteurs, voilà, il y a de temps en temps peut-être un portable qui traîne, encore non pas trop parce que d'enlever les portables, mais des réflexions qui sont assez drôles. Et la prof, qui est donc l'auteur, elle est très patiente, et elle a beaucoup d'humour aussi.
C'est inspiré de situations réelles ou de réflexions, voilà, c'est assez croustillant.
Et puis son dessin, il est sympathique, avec ses gros yeux bien expressifs, tous des visages différents quand même, hein, ils ont vraiment tous des visages qui ne se ressemblent pas. Et très agréable lecture, voilà.
On peut rappeler peut-être le nom de l'auteur et l'éditeur ?
Alors l'auteur c'est Véropé, l'éditeur c'est la boîte à bulles, donc c'est régional du coup.
C'est un éditeur de Saint-Martin.
Voilà. Et ça coûte 14 euros, je viens de voir le prix là.
Et si vous n'avez pas 14 euros...
Et vous pouvez l'emprunter à la bibliothèque bien sûr.
L'emprunter à la bibliothèque.
On l'a acheté exprès pour vous les lycéens. Et après, on peut présenter d'autres BD, hein. Je crois. Catherine, elle a une BD...
Bien sûr.
Voilà. Alors, une BD coup de cœur. Pour préparer les commissions bande dessinée, on va de temps en temps dans notre librairie BD préférée. Et donc, j'ai vu cette bande dessinée qu'on n'avait pas forcément repérée au départ. Bon, je crois que Framboise, elle connaissait l'auteur parce qu'on a des albums d'elle... qui ont été achetés précédemment. Et donc, du coup, moi, je suis tombée un peu en admiration devant le dessin de Julia
Wertz,
je ne sais pas trop.
W-E-R-T-Z.
Elle est américaine, elle est assez jeune, et donc elle a fait un travail, je trouve, formidable sur New York. Donc, dans cet album qui s'appelle Les Entrailles de New York, qui est édité chez La Grume. Et donc, elle a habité New York pendant une dizaine d'années. Au départ, je crois qu'elle habite... Elle est californienne, je crois, c'est ça?
Oui, et d'ailleurs,
elle est née en Californie.
Premier roman, enfin, première BD, a priori, qui s'appelle L'attente infinie, enfin, en tout cas traduite en français, raconte sa migration entre San Francisco et New York, voilà, entre autres.
Et donc, elle a fait un travail remarquable sur New York, puisque donc, dans cet album assez épais en noir et blanc, elle raconte tout un tas d'anecdotes. Donc le parti pris de départ, c'est pas du tout de faire un guide touristique où on parlerait pour une énième fois de la Statue de la Liberté ou autre. C'est vraiment comment New York a évolué à travers les âges à l'aide de dessins moi je trouve vraiment magnifiques. Donc elle prend en fait le parti de, souvent sur une double page, de présenter un bâtiment, par exemple dans les années 30, hein, et puis à l'heure actuelle ou il y a quelques années, 5 ans maximum. Elle va aussi faire une histoire, par exemple, des vendeurs ambulants, des chariots, comment ça évolue à travers les âges. Et puis les façades de maisons, beaucoup. Donc elle va prendre une façade de maison, elle va la présenter telle qu'elle existait, par exemple, en 1926. Et puis à côté, elle va montrer cette même rue au même endroit dans les années 2000. Donc c'est vraiment intéressant, ça donne une autre idée de l'histoire de New York et une histoire de l'Amérique. Elle parle aussi des télécommunications, du métro, elle parle de... Et puis de plein de petites anecdotes comme ça. Moi, j'ai noté, par exemple, il faut que je retrouve la page, les inventions, ce qui a été inventé à New York et qui a eu un grand retentissement après. Par exemple, vous savez, les oursons, on les appelle les teddy bears. Et elle explique pourquoi ça s'appelle teddy bear. Faut que je le retrouve. Forcément, je ne vais pas le retrouver. Ah voilà, l'ours en peluche. Donc elle explique, en 1902, l'Amérique fut émue, à tort, lorsque le président Theodore Roosevelt refusa pendant une partie de chasse de tirer sur un ours brun blessé. Cela donna l'idée au propriétaire d'un magasin de bonbons de Brooklyn, Maurice et Rose Mitchum, de fabriquer un ours en peluche qu'ils baptisèrent Teddy Bears, en l'honneur de Theodore. Voilà, par exemple, ce petite chose qu'on apprend... Il parle aussi de l'invention de Monsieur Patate, que tout le monde connaît, voilà. De personnalités aussi qui ont marqué leur époque. Par exemple, le portrait de Nelly Bly, qui était une intrépide journaliste, qui a fait les 400 coups. Et elle va nous parler d'une personne aussi qui avait la typhoïde et qui la transmettait. Enfin voilà, il y a plein de portraits de personnes ayant habité New York. Et puis, surtout, ce qui est formidable, c'est tous ces plans, pareil, des plans de maison. Elle nous parle aussi de la maison de Nora Jones. Enfin, voilà, c'est très varié. Ça sort complètement de ce qu'on voit d'habitude sur New York. Elle a travaillé aussi sur des photos. Elle parle d'un cimetière à bateaux, voilà. Donc, c'est vraiment... Je n'ai jamais mis les pieds à New York et ça m'a vraiment donné envie d'y aller. Mais je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Quelqu'un qui a eu l'occasion peut prendre plaisir à feuilleter. Ça se déguste comme ça, par petites touches, quelques pages tous les jours. Et c'est vraiment un bon moment. Tu veux parler de Julia Wirtz?
Je n'ai pas lu pour l'instant Les entrailles de New York et c'est vrai que ça fait envie. Ouais. Donc, Astrid, ça lui a beaucoup plu.
Oui.
Je pense que peut-être certains étudiants aussi qui s'intéressent à l'architecture, en effet, c'est intéressant parce que ces dessins, ils sont bien, quoi.
On
va couper, là, parce que franchement...
Je suis bluffée aussi par tout ce qu'elle a dû... par le travail... la documentation qu'elle a dû réunir,
C'est une personne très marginale, et parce que aussi dans ses romans précédents, par exemple, après L'attente infinie, elle fait New York, enfin un whisky ou whisky à New York, je ne sais plus dans quel sens, parce qu'en fait, pour pouvoir arriver à faire son travail d'illustratrice, enfin de dessinatrice, enfin d'auteur de bande dessinée, faut bien qu'elle vive aussi à côté, et en l'occurrence, elle travaille dans des restaurants. Et elle travaille beaucoup, elle fait beaucoup d'heures, voilà. Et puis on se rend compte à un moment donné qu'il y a une accumulation de bouteilles chez elle, tout ça. Enfin, elle va parler de ses problèmes avec l'alcoolisme. Alors bon, on a L'attente infinie, New York, un whisky ou whisky à New York. Ouais. voilà, elle va faire en fait elle-même une cure de désintoxication. Et dans la tante infinie, elle parle aussi des problèmes de santé de son frère, de sa mère. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est ça touche tous les problèmes en fait de certains jeunes. Enfin, qui va s'émanciper parce qu'elle va quitter San Francisco toute seule pour la New York, c'est pas rien. C'est pas comme peut-être quitter Samar Lapide pour venir à Tours. Bon, c'est bête ce que je dis, mais je pense que c'est peut-être à une autre échelle.
Ça rejoint ce que disait Framboise, en fait, c'est aussi un peu son portrait en filigrane, parce que des fois, par petites touches, elle dit ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, ou ce qu'elle a vécu, son ancien appartement. Elle parle aussi de sa vie, en fait, le choc qu'elle a eu quand elle est arrivée, etc. Donc, en fait, il y a le côté documentaire qui est vraiment très intéressant. Je pense qu'il peut intéresser n'importe qui a envie de connaître un petit peu mieux New York. Et puis, par petites touches, par moment, elle parle d'elle, notamment son appartement, elle le dessine, on le voit. En plus, elle dessine donc les façades, mais aussi par moments. Alors, je ne sais pas si on peut dire, c'est pas de la 3D, mais quand on voit un plan en profondeur, vous voyez, c'est un peu comme une maison de poupée ou
en perspective.
Oui, c'est ça. Et du coup, ça, je trouve ça très fort. Alors, faut évidemment que j'en trouve un, mais ça va pas parler aux auditeurs, c'est sûr. Voilà, ce genre de petit plan où là, on voit en perspective. Enfin, je trouve ça très bien fait, très réaliste et
voilà, on est presque dans le dessin technique.
Oui, presque, oui. Et ça, alors après, il y a le plan pur hein, avec les escaliers, les cloisons, etc. Et puis par moment, elle fait un plan différent. Donc c'est vrai que ça.
Alors qu'est-ce qui fait justement la dimension autobiographique, mais que cet ouvrage-là n'est pas froid parce que c'est du très très fin, très minutieux. Et pourquoi qu'est-ce qui fait que ce n'est pas quelque chose de froid et que c'est pas juste une bête encyclopédie?
Déjà, je trouve que le trait n'est pas si froid et puis l'écriture, ce qu'elle y dit, c'est très drôle. Il y a plein d'humour. Enfin voilà, ce qui fait que c'est vraiment un recueil de son New York à elle, un peu des recherches qu'elle a. C'est très personnel en fait. Finalement, c'est son guide de New York à elle. Et d'ailleurs, elle termine l'ouvrage par une balade. En fait, à la fin, il n'y a pas du tout de texte. Et en fait, en gros, on tourne les pages et en fait, on longe la rue. On continue la rue et elle a dessiné tout au long de cette rue. Elle a fait tout un cheminement dans un quartier qu'elle aime bien. Et du coup, on suit au fur et à mesure on tourne les pages et on est sur. En fait, on ne change jamais de trottoir et on suit comme ça. On fait tout un circuit.
Alors, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a énormément d'humour et beaucoup d'autodérision. Mmh. Et d'ailleurs, je crois, parce que je ne l'ai pas lu, mais j'ai juste feuilleté le livre. Et avant tous ces plans dont Astrid vient de parler, elle dit juste un petit mot. En résumé, je passe toute ma balade dans le New York d'aujourd'hui à chercher des traces du New York d'autrefois. Et pendant tout ce temps, je regarde les appartements et je m'imagine comment ce serait d'habiter là, de m'asseoir sur l'escalier de secours, au-dessus d'une petite boutique dans une rue passante, pour mater les gens toute la journée. Je suis perpétuellement en train de fantasmer sur une époque que je n'ai pas connue et d'imaginer une vie que je ne connaîtrai jamais. Et je pense que c'est un peu son esprit à elle et c'est bon. Enfin, je connais quelqu'un adulte, plus de 60 ans, qui lit très peu de bandes dessinées et qui a pris un énorme plaisir à lire L'attente infinie, mais qui est peut-être un peu plus dur parce qu'il y a vraiment des phases difficiles dans cette bande dessinée, par rapport à son frère notamment, qui, je crois, tombe dans la drogue, qui va faire des stages à l'hôpital et tout ça. Donc, elle est très inquiète pour lui. En même temps, elle va développer une maladie, le lupus, qui n'est pas rien non plus. Et ça ne l'empêchera pas de travailler aussi après dans un restaurant, etc. Donc, ouais, c'est une fille, je pense, qui a une vie très dense et aussi ses parents, tout ça. Enfin voilà, donc ça peut être intéressant.
Qui est reconnue aussi, parce que je crois que j'ai lu qu'elle dessinait pour le New Yorker, par exemple. Donc elle est reconnue aussi en tant qu'illustratrice aux USA.
Et elle a un blog, bien sûr, qui doit être intéressant. Voilà.
Est-ce que vous avez le nom de ce blog?
Eh bien, Julia Wirth. Non, mais si on tape Julia Wirth, on la trouve sans problème.
JuliaWirth.org, quelque chose comme ça.
Voilà. Donc, Julia Wirth, W. Alors, voilà, pardon. En plus, c'est bien ce qu'on m'aide. W-E-R-T-Z, pour vous, auditeurs. Et ça, c'est paru aux éditions... Je n'arrive pas à
dire. L'Agrume.
L'Agrume, merci.
Le problème là. Me bégaye, aïe, poupée, mais c'est ça qui m'a gagné. C'est histoire qui bagage, j'aime répéter. Quand on coule l'eau, ou qu'un chemin pour fête. Quand on dit caillou, ou qu'un raison faute dans la tête. Ou qu'un toute qualité, trésor, papier ou. Connais ça ou gagne, ça ou gagne, c'est ou gagne en grand maître, c'est lui ou qu'a coûté, si ou paraît, mais ciel là, c'est cœur pour écouter, écoutez bien, les papas les femmes. Li pas crier quand l'ennemi. Tant qu'on coule l'eau, ou qu'un chemin pour faire. Tant qu'on dit caillou, ou qu'un raison faute dans la tête. Ou qu'un toute qualité, trésor, papier ou. Si ou qu'un grand goût c'est qu'à ça pour manger, c'est pas l'argent. Peuple là, en cède nous péter sans péter fiel. C'est pour moi tant, pour haut c'est pour riche tant, pour pauvre c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Tant qu'on coule l'eau, ou qu'un chemin pour faire. Caillou ou qu'un raison faite dans la tête. Ou qu'un toute qualité, trésor, papier ou. C'est un ou activé ou. C'est un ou qu'on est. Ça ou gagné. Ça ou gagné. Oh, oh, oh.
Vous écoutez toujours Radio Campus Tours, vous écoutez toujours La Méridienne. Et nos médiathécaires de la bibliothèque municipale de Tours nous donnaient envie de lire des bandes dessinées. Nous écoutions ensuite Mélissa Lavaux qui donnait de la voix tandis que je perds la mienne. Et pour conclure cette méridienne, je vous propose donc de remèdes de grand-mère pour soigner les maux de gorge. Alors, vous pouvez par exemple faire une infusion de clous de girofle, de citron et de miel. Recette, portez à ébullition 250 ml d'eau, versez-la ensuite dans un bol ou dans une tasse et ajoutez-y 6 clous de girofle, le jus d'un demi-citron ainsi qu'une cuillère à soupe de miel. Laissez infuser le tout à couvert pendant 5 minutes environ, puis filtrez l'infusion. Pour en retirer les clous de girofle, vous pouvez boire cette potion plusieurs fois par jour jusqu'à disparition des symptômes. Et vous pouvez aussi faire une infusion de thym. Portez à ébullition 150 ml d'eau. retirez la casserole du feu et ajoutez-y une cuillère à café de thym. Laissez infuser pendant 10 minutes. Vous pouvez aussi utiliser une théière si le cœur vous en dit. Dans ce cas, disposez 7 branches de thym dans la théière et remplissez-la avec 500 ml d'eau. Ajoutez-y 2 cuillères à soupe de miel et faites chauffer. Buvez cette infusion 2 fois par jour. Voilà, chers auditeurs, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à demain. Mes invités seront en lien avec l'INSERM et je n'en dis pas plus pour garder la surprise, bien sûr.
Thank you.